Chapitre 5. Pour Maria, les journées qui ont suivi ces événements ont été semblables aux journées d'avant. Même tâche à réaliser de la même manière. Un soir d'avril, la mère Chapdelaine n'a pas voulu se mettre à table avec les autres, à l'heure du souper. « J'ai mal dans le corps et je n'ai pas faim », a-t-elle dit. « J'ai dû trop forcer en préparant le pain aujourd'hui. » Personne n'a rien dit. Les gens qui travaillent la terre sont habitués à ce que, de temps en temps, le corps malmené par le dur travail se fatigue. Pendant que le père et les enfants mangeaient, la mère Chapdelaine est restée immobile sur sa chaise, près du poêle. Elle avait un peu de mal à respirer. « Je vais me coucher », a-t-elle bientôt dit. « Après une bonne nuit, demain matin je serai bien, c'est sûr. Tu surveilleras la cuisson du pain, Maria. » Le lendemain, en effet, elle s'est levée à son heure habituelle et a préparé le petit déjeuner. Mais comme elle se sentait de nouveau mal, mettant les mains sur ses reins, elle a préféré aller se coucher. « Tu donneras à manger aux hommes, Maria », a-t-elle dit avant d'aller au lit. « Et ton père t'aidera à traire les vaches, si tu veux. Je ne suis bonne à rien ce matin. » « C'est bon, sa mère, c'est bon, » a répondu Maria. « Reposez-vous tranquillement, tout ira bien. » Pendant 2 jours, elle est restée couchée, surveillant cependant toute la vie domestique, donnant des conseils. « Ne t'inquiète pas, Laura, » lui répétait sans cesse son mari. « Il n'y a presque rien à faire dans la maison à part les choses habituelles, et Maria est capable de le faire. » Le 3e jour, elle a cessé de penser aux tâches ménagères et a commencé à se plaindre. « Oh, mon Dieu !» gémissait-elle. « J'ai mal dans tout le corps et la tête me brûle. Je vais mourir. » Le père Chapdelaine a essayé de la réconforter en plaisantant. « Tu mourras quand le bon Dieu voudra, et à mon avis, ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce qu'il ferait de toi ?» Mais il commençait à s'inquiéter. Et il a dit à sa fille, « Je vais aller à la pipe. Au magasin, ils ont peut-être des remèdes pour cette maladie-là. » C'est alors que Tite B, qui était allé aider Eutrope Gagnon à scier du bois pour son poêle, est entré avec le jeune homme. « Eutrope a un remède » a-t-il dit. Ce dernier a pris une petite boîte dans une de ses poches et l'a ouverte. « C'est des pilules » a-t-il déclaré. « Quand mon frère a eu mal aux reins, il y a 3 ans, il en a pris. Son mal n'est pas parti tout de suite, mais il a fini par aller mieux. Ça vient des états. » Maria a alors demandé d'une voix hésitante. « Est-ce que c'est bien aux reins qu'elle a mal ?»« D'après ce que Tite B m'a dit, j'ai pensé que c'était ça. Mon frère en a pris 3 quand il avait très mal aux reins, et il a dit que ça lui a fait du bien. » Ils sont allés près de la mère Chapdelaine et lui ont proposé le remède. « Ça va vous guérir, Madame Chapdelaine, » a dit Eutrope. « C'est un remède première classe. Mon frère l'a fait venir des états exprès. Vous ne trouverez pas un remède comme ça au magasin de la pipe, c'est sûr et certain. » La malade n'osait pas prendre les pilules. Mais comme la douleur était de plus en plus vive, elle en a pris 2 au milieu de la nuit, puis 2 autres le matin, et pendant les heures qui ont suivi, tout le monde attendait, avec confiance, les effets positifs du remède. Mais vers midi, il a fallu se rendre à l'évidence. Elle souffrait toujours autant et continuait à se plaindre. Le soir, la boîte était vide, et quand la nuit est tombée, les gémissements de la malade ont rempli la maison d'une grande tristesse. Un peu avant le jour, le père Chapdelaine est allé réveiller Maria. « Je vais à Mistouk chercher le médecin, » lui a-t-il dit. « Et en passant à la pipe, je vais parler à monsieur le curé aussi. C'est inquiétant de l'entendre se lamenter ainsi. » Le père est aussitôt parti et n'est revenu que le soir avec le médecin. Le médecin s'est d'abord réchauffé quelques secondes près du poêle, puis il est allé voir la mère Chapdelaine. « Eh bien, la mère, on se met à être malade, comme les gens riches ?» Mais après un premier examen, il a cessé de plaisanter et a dit « Elle est malade pour de bon, je crois. Je vais approfondir mon examen. » Pendant cela, tous les Chapdelaines pensaient « Maintenant, on va savoir ce que c'est, et il va lui donner de bons remèdes. » Mais après avoir examiné à nouveau Laura et lui avoir posé des questions, il a dit au père « Des lésions internes, c'est grave, et on ne peut rien voir. Le plus grand savant du monde ne pourrait pas vous en dire plus que moi. Je peux toujours lui donner quelque chose pour l'empêcher de trop souffrir, et nous allons attendre. » Il a alors sorti un flacon de son sac en cuir, a mis 15 gouttes d'une drogue jaunâtre dans un verre avec un peu d'eau, puis a aidé la malade à boire. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre encore. La mère Chapdelaine s'est bientôt endormie. Le médecin s'est alors levé et a déclaré « Je vais aller coucher à Honfleur. Votre cheval est bon pour me mener jusque-là, non ? Vous n'avez pas besoin de venir, je connais le chemin. Je vais passer la nuit chez Ephrem Surprenant et je reviendrai demain dans l'après-midi. » Quelques minutes plus tard, la famille s'est retrouvée seule, comme toujours. Une grande quiétude a rempli la maison. Chacun pensait « C'est un bon remède qu'il lui a donné. Elle ne se lamente plus. » Mais une heure plus tard, la malade est sortie de la torpeur où l'avait plongé le faible narcotique, a essayé de se retourner et a poussé un cri. Tous sont allés la trouver. Elle a ouvert les yeux et après quelques plaintes aiguës, elle s'est mise à pleurer.
« Oh Samuel, c'est certain, je vais mourir. »
« Mais non, mais non !»«
Oui, je te dis que je vais mourir. Je le sens et ce médecin n'est qu'un idiot qui ne sait pas quoi faire. Il ne peut même pas dire quel mal j'ai. Et le remède qu'il m'a donné n'était pas le bon remède. Ça ne m'a pas guéri. Je te dis que je vais mourir. »
Des larmes coulaient sur ses joues. Son mari et ses enfants l'ont regardé, effrayé. La peur de la mort a alors envahi la maison. Ils se sont sentis isolés du reste du monde, sans défense, n'ayant même plus de cheval pour aller chercher du secours, et leurs yeux aussi se sont mouillés. Cependant, ils se taisaient et demeuraient immobiles. Sur ce, Eutrope Gagnon est arrivé. « Elle ne va pas mieux ? » a-t-il demandé. « Vous avez vu le médecin ?» Le père Chapdelaine, hors de lui, s'est mis à crier.
« Oui, et ce médecin n'est bon à rien. Il est venu ici. Il lui a donné un petit remède de rien dans le fond d'un verre et il est allé coucher au village comme s'il avait gagné son argent. Mais il n'aura pas un sou de moi. Rien, rien du tout !»
Eutrope a secoué la tête et a dit d'un air grave « Moi non plus, je ne fais pas confiance au médecin. Pourquoi on n'a pas pensé à aller chercher un remancheur, comme Tit-Seb de Saint-Félicien ?» Tous les visages se sont tournés vers lui et les larmes se sont arrêtées. « Tit-Seb ? » a dit Maria. « Vous pensez qu'il est bon pour les maladies de ce type ?» Eutrope et le père Chapdelaine ont répondu en même temps. « Tit-Seb guérit le monde, c'est sûr. Il n'est pas passé par des écoles, lui, mais il guérit le monde. » Ils connaissaient tous le guérisseur de réputation, et l'espoir renaissait. « Tit-Seb est un homme bon. En plus, il ne demande pas beaucoup d'argent. Je vais aller le chercher, si vous voulez, » a proposé Eutrope. « Mais avec quel cheval ?» a demandé Maria. « Le médecin a emmené Charles Gène à Honfleur. » Le père Chapdelaine a alors eu un geste de colère et a juré entre ses dents.
« Le vieux maudit !»
Eutrope a réfléchi quelques secondes, puis « Ça ne fait rien, je marcherai jusqu'à Honfleur, et là, je trouverai bien quelqu'un qui me prêtera un cheval. » Il est parti sur le champ. 2 heures après l'aube, le médecin et le curé de Saint-Henri sont arrivés ensemble. Ils se sont assis près du lit et ont parlé à voix basse. Le médecin a procédé à un nouvel examen, mais c'est le curé qui en a annoncé le résultat. On ne peut rien dire. Elle n'a pas l'air pire, mais ça n'est pas une maladie ordinaire. Je vais la confesser et lui donner l'absolution. Après, nous nous en irons tous les deux et nous reviendrons après-demain. Avant son départ, le médecin a donné un petit flacon à Maria, avec des recommandations. Seulement si elle a très mal, et jamais plus de 15 gouttes à la fois, et ne lui donnez pas d'eau froide à boire. Maria les a raccompagnés jusqu'à la porte, le flacon à la main. Au moment de monter dans la charrette, le curé de Saint-Henri l'a prise à part et lui a dit quelques mots à son tour. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a que le bon Dieu qui connaît les maladies. Priez bien fort. Toute la journée, Maria s'est efforcée de combattre avec des prières la marche incompréhensible du mal. Et chaque fois qu'elle allait voir sa mère, c'était avec l'espoir qu'un miracle s'était produit et que la malade allait cesser de gémir, dormir quelques heures puis se réveiller guérie. Malheureusement, rien de tout cela n'est arrivé. Les plaintes continuaient et vers le soir, elles se sont changées en une sorte de soupir profond. Au milieu de la nuit, Eutrope Gagnon est arrivé, ramenant Tit-Seb, le remancheur. L'homme a palpé les membres et le corps de la mère Chapdelaine avec des précautions infinies. Et après cela, il est resté longtemps immobile, assis près du lit, à la contempler. Puis il a enfin parlé. « Je n'y peux rien. C'est une maladie dans le dedans du corps que je ne connais pas. Si le bon Dieu le veut, elle va mourir. » Maria s'est mise à pleurer doucement. Le père Chapdelaine est resté immobile et muet. « Vous pensez qu'elle va mourir avant le retour de monsieur le curé ?» a demandé Maria. Tit-Seb a fait un geste d'ignorance. « Je ne sais pas. Si votre cheval n'est pas trop fatigué, je vous conseille d'aller le chercher dès qu'il fera jour. » Les regards se sont tournés vers la fenêtre, qui n'était encore qu'une plaque noire. Puis de nouveau vers la malade. Une femme forte et courageuse, qui avait toute sa santé 5 jours avant, ne pouvait pas mourir aussi vite que cela. Mais maintenant, il savait que c'était la fin. Au bout d'une demi-heure, le père Chapdelaine s'est brusquement levé et a regardé à nouveau vers la fenêtre. « Je vais partir, » a-t-il dit. Quand il est revenu avec le curé, ce dernier a donné l'extrême onction à la malade, et puis tous se sont mis à genoux près du lit et ont prié. Vers 4 heures, la mère Chapdelaine a soupiré 2 fois, puis elle est morte. Après la mort de la mère, la vie a repris doucement et tristement chez les Chapdelaine. Maria s'occupait maintenant de tout dans la maison. Un après-midi, elle s'est assise près de la petite fenêtre, et à regarder un moment, sans y penser, le ciel, le sol blanc, la forêt au loin. Et tout à coup, il lui a semblé que cette question qu'elle s'était posée à elle-même, partir ou rester, venait de recevoir une réponse. Vivre ainsi dans ce pays, comme sa mère avait vécu, elle sentait qu'elle serait capable de cela. Elle s'en rendait compte sans aucune vanité et comme si la réponse était venue d'ailleurs. Oui, elle serait capable de cela. C'était là comme une nouvelle révélation inattendue. Elle s'est mise à penser aux merveilles des États, mais une petite voix est venue lui rappeler les 100 douceurs du pays qu'elle voulait fuir. L'apparition quasi miraculeuse de la terre au printemps, après les longs mois d'hiver. Les champs couverts de fleurs, et après le repos forcé de l'hiver, le dur travail de la terre lui a semblé comme une fête. Après cela, c'était l'été, le merveilleux soleil, et à 300 pas de la maison, les rapides et la chute, écume blanche sur l'eau noire. Puis la moisson, le grain mis dans les granges, l'automne et bientôt l'hiver qui revenait. Mais miraculeusement, l'hiver ne paraissait plus détestable ni terrible. Il apportait tout au moins l'intimité de la maison, et au dehors, avec la monotonie et le silence de la neige, la paix. Une grande paix. Je vais rester ici, s'est-elle dit. Alma Rose est encore petite, elle n'a plus sa mère, il faut une femme à la maison. En mai, Esdras et Dabé sont revenus des chantiers, et leur tristesse a ravivé la tristesse des autres. Mais la terre attendait. Elle avait besoin des graines, et il fallait reprendre le travail. Eutrope Gagnon est venu veiller un soir et peut-être, en regardant discrètement le visage de Maria, a-t-il deviné que son cœur avait changé, car quand ils ont été seuls, il a demandé « Pensez-vous toujours aller aux États, Maria ?» Elle a fait non de la tête, les yeux à terre. « Alors, je sais bien que ce n'est pas le moment de parler de ça, mais pensez-vous que j'ai une chance plus tard ?» Maria lui a répondu « « Oui, si vous voulez, je vous épouserai comme vous me l'avez demandé, au printemps prochain. »